Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Voilà, je vous propose alors de démarrer un nouveau chapitre qui présente l'Inde. Et on va démarrer par une civilisation qui est à l'issue finalement de la préhistoire, au moment de la proto-histoire, une civilisation qui correspond à une période proto-historique, c'est donc la civilisation de l'Indus, que vous pouvez appeler aussi du nom d'une ville qui sans doute était la plus importante de cette civilisation, c'est la ville d'Harappa que j'entoure ici, là. Donc la civilisation harappéenne, l'art harappéen. Donc il s'agit d'une civilisation proto-historique qui va se caractériser par la diffusion du cuivre et donc du bronze à partir de 2500 avant notre ère. Et à partir de ce moment, oui, on entre donc dans le cœur même de cette civilisation qui est arrivée à son apogée et qui restera à son apogée pendant à peu près 1000 ans, peut-être un peu moins de 1000 ans, disons, si on veut être le plus simple possible, entre 2500 et 1500 avant notre ère, ici, dans cette vallée de l'Indus, dans ce bassin de l'Indus, s'est développée une civilisation tout à fait remarquable, proto-historique, caractérisée par la diffusion du cuivre. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Une civilisation qui est immense, tout à fait, enfin immense dans le sens, oui, immense dans tous les sens finalement, une très grande civilisation, qui nous apparaît comme une civilisation urbaine, c'est-à-dire marquée par des villes qui étaient gigantesques, des villes très impressionnantes, comme Harappa, mais la plus connue de toutes ces villes, c'est bien sûr Mohenjo-Daro, que vous avez ici, sur laquelle on va revenir bien sûr, et... C'est donc effectivement une civilisation qui peut sembler surprenante, là comme ça, qui se développe avec une intensité incroyable. Donc longtemps, les historiens, les archéologues ont considéré cette civilisation comme un phénomène soudain, comme un phénomène mystérieux. Mais à force de fouilles archéologiques dans tout ce bassin et même au-delà du bassin, les archéologues ont fini par bien comprendre que cette civilisation est dans la continuité logique de ce qui s'était développé avant, c'est-à-dire à l'époque néolithique. Hein, c'est l'aboutissement, si vous voulez, d'une civilisation néolithique qui déjà était brillante. Voilà, donc quand on aborde cette période, donc 2500-1500 avant notre ère, c'est particulièrement remarquable. Et les villes de cette civilisation de l'Indus sont particulièrement remarquables. Voilà, alors pour le dire autrement, en fait, un ensemble de découvertes permet de suivre maintenant de 7000 avant notre ère à 2500 avant notre ère, des transformations, des innovations qui stimulées par l'élargissement du réseau des échanges à partir notamment de 3000 avant notre ère, créent les conditions favorables au développement d'une civilisation urbaine qui est tout à fait exceptionnelle, certes, mais qui est l'aboutissement de la période antérieure, c'est-à-dire de la période néolithique. Alors tout à l'heure, on parlera justement d'un de ces sites néolithiques remarquables, bien antérieurs à la civilisation de l'Indus, c'est Mergar, que vous n'avez pas ici sur la carte, c'est à l'ouest de la vallée de l'Indus au Pakistan aujourd'hui. Mergar, on en parlera tout à l'heure. Et Mergar, c'est un site qui est attesté à partir de 7000 avant notre ère, et qui est déjà donc brillant, qui est tout à fait exceptionnel. On en parlera tout à l'heure. Cette civilisation de l'Indus, ou civilisation harappéenne, était prospère, et cette prospérité reposait sur l'agriculture, ou plutôt sur l'exploitation des riches limons de l'Indus. Mais ce sont avant tout des agriculteurs. Donc c'est assez particulier, voire paradoxal, la civilisation nous apparaît comme une civilisation urbaine, mais elle était fondée en fait sur des villages, et sur la production agricole, sur la base de ces limons de l'Indus. Alors on a pu retrouver dans les villes comme Mohenjo-Daro ou encore Harappa, des greniers, mais des greniers qui sont tellement gigantesques qu'ils laissent supposer l'existence de surplus agricoles. Hein, c'est une civilisation très très prospère de ce point de vue-là. Et ça, ça va expliquer beaucoup de choses. Ça explique d'abord cette prospérité, elle va expliquer la floraison urbaine. Parce que tous les points noirs là que vous avez sur la carte, ce sont des villes, hein. Ce sont des villes, ce ne sont pas des villages, ce sont des villes de la civilisation de l'Indus. Donc ça explique la floraison urbaine, la prospérité alimente un commerce lointain. Ce commerce lointain, il est attesté par la découverte de sceaux, je vais en présenter, des sceaux, qui ont été trouvés jusqu'en Mésopotamie, dans des villes de Mésopotamie. Donc c'est bien la preuve que les villes de Mésopotamie faisaient du commerce avec les villes de l'Indus. Donc une prospérité qui est effectivement tout à fait extraordinaire, et puis qui va se répandre sur un immense territoire englobant toute la vallée de l'Indus, donc tout le bassin de l'Indus est concerné par cette civilisation, et une partie notamment du Gujarat, le Gujarat indien, se trouve ici, là. Voilà, et même jusqu'à Delhi, finalement, on peut trouver encore des traces de la civilisation de l'Indus. Donc oui, c'est très étendu sur le plan géographique, sur le plan historique, donc on l'a dit, hein, c'est 1000 ans d'existence à son apogée, hein, c'est une civilisation qui dure 1000 ans à son apogée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle existait un peu avant. Elle n'existera plus après 1500, avant notre ère, mais enfin avant 2500 avant notre ère, oui, elle a déjà commencé donc à émerger, mais elle est à son apogée à partir de 2500 avant notre ère. Les principaux sites, alors je les entoure. Celui qui va nous intéresser plus qu'un autre aujourd'hui, c'est bien sûr Mohenjo-Daro. Si vous ne le lisez pas, rassurez-vous, vous allez le lire sur une diapositive suivante. Donc Mohenjo-Daro qui est ici, qui coïncide d'ailleurs avec un site pré-indusien, ça veut dire quoi, un site néolithique? Il y avait là donc déjà un site néolithique, une implantation néolithique. L'autre ville qui est un peu plus au sud est aussi très importante, c'est Shanhu-Daro. Là, vous trouverez aussi l'orthographe sur une diapositive suivante. Shanhu-Daro. Au nord, tout au nord, on l'a dit, c'est Harappa, qui est entouré, là, ici, Harappa, qui était sans doute, oui, la ville principale, on ne va pas dire capitale, mais enfin la ville principale. Et il faut compter, à partir de là, avec des colonies, ce que les historiens et archéologues ont osé appeler des colonies. Alors, colonies, bon, c'est bien sûr pas dans le sens grec du terme. Les fois précédentes, souvenez-vous, on a parlé des colonies grecques, hein, du phénomène de la colonie grecque. Mais quand même, on se rapproche un peu de ce phénomène, si bien qu'une cité très éloignée d'Harappa, c'est celle que j'entoure, là, qui s'appelle précisément Sugtagen d'Or. Cette cité qui est sur les bords de la mer d'Oman, ici vous êtes sur les bords de la mer d'Oman, ici là, hein, je l'ai entouré à ce niveau-là, donc à la frontière irano-pakistanaise, donc là effectivement il y a une cité qui est considérée comme une colonie harappéenne, Harappa qui se trouve à des milliers, enfin à 1500-2000 kilomètres de là, Harappa qui est là. Harappa, si je ne l'ai pas dit d'ailleurs, se superpose avec un site pré-indusien, ça veut dire néolithique. Avant la civilisation d'Indus, hein, néolithique. Donc voilà pour les quelques cités qui pourront nous intéresser aujourd'hui. Il y en aura d'autres, notamment dans le Gujarat. Je crois que je vais la citer, mais enfin passons. Et pour être précis sur les fouilles archéologiques, c'est dans les années 20, 1920, qu'une vaste campagne de fouilles conduite par John Marshall exhumera donc ces deux grandes agglomérations des 3e, 2e millénaires avant notre ère, que sont Harappa au Punjab et Mohenjo-Daro dans le Sindh. Alors bien sûr, aujourd'hui ces villes sont pakistanaises, sont au Pakistan, mais voilà, donc ce sont effectivement les deux grandes fouilles des années 20, exhumant des villes qui sont gigantesques, hein, qui sont très très impressionnantes, Mohenjo-Daro étant beaucoup mieux conservée quand même que la ville de Harappa. Et donc la découverte, enfin on les a pas découvertes dans les années 20, c'est les fouilles qui vont commencer d'une façon plus systématique dans les années 20. En fait, on les connaissait, ces villes, dès le 19e siècle. Mais les fouilles des années 20 vont stimuler d'autres campagnes de fouilles au cours du 20e siècle, notamment dans les années 50, et qui conduisent ces campagnes à exhumer plus de 60 villes de la civilisation de l'Indus. Donc aujourd'hui, c'est 60 villes, plus de 60 villes, qui donnent une image à peu près correcte, assez complète, de cette civilisation de l'Indus. Et heureusement que l'on a ça, parce que on n'a pas de texte. On n'a pas de texte. Alors si, il y a des inscriptions, mais on ne sait toujours pas les déchiffrer aujourd'hui. Les pictogrammes de la civilisation de l'Indus restent tout à fait mystérieux, encore à ce jour. Hein. Donc c'était sans doute une écriture, mais on ne sait pas la lire. Hein. Donc tant qu'on ne sait pas la lire, il faut effectivement s'appuyer sur les archéologues, ce que nous en disent les archéologues de cette civilisation de l'Indus. Donc j'insiste beaucoup, une civilisation vaste, prospère, une civilisation puissante, une civilisation qui faisait du commerce et du commerce lointain, une civilisation étendue, ou du moins ça ne se limite pas au bassin d'Indus, puisque j'ai cité le Gujarat, et j'entoure d'ailleurs la ville qui, au Gujarat indien, est la plus importante des villes de la civilisation de l'Indus. Pour le Gujarat indien, c'est donc la ville de Lothal, hein, si vous ne le disiez pas, c'est L-O-T-H-A-L, et d'autres villes dans la région de Delhi, ou dans le Baluchistan, toujours donc en Inde, se réfèrent à cette civilisation. Donc c'est quelque chose de dense, c'est quelque chose de très très, très, très important. Alors je vous parlais tout à l'heure, où j'évoquais, des sceaux que l'on a retrouvés dans des villes de Mésopotamie et qui attestent un commerce intense qu'il y avait donc à l'époque à laquelle nous sommes, troisième, deuxième millénaire avant notre ère, entre la Mésopotamie et puis la vallée de l'Indus. Alors voici ces sceaux, à quoi ça correspond ou à quoi ça ressemble finalement ces sceaux. Alors j'ai mis sceau cylindre ici, c'est peut-être un peu maladroit, sceau cylindre c'est pour forcer le rapprochement avec les sceaux cylindres de Mésopotamie, sumérien ou acadien, qui existe depuis au moins le quatrième millénaire avant notre ère. Donc effectivement, c'est une tendance pour sceller des jarres, pour sceller des ballots, pour sceller donc d'autres documents, aussi bien en Mésopotamie qu'ici dans la civilisation de l'Indus, on se sert de sceaux qui sont alors des sceaux cylindres donc en Mésopotamie et qui ressemblent à ce que vous avez ici là sur la projection. Et tout a commencé avec ces sceaux. Je veux dire par là, donc la découverte de la civilisation de l'Indus se fait par le biais de ces sceaux. Pour être plus précis, c'est un glissement de terrain produit par l'installation d'une ligne de chemin de fer en 1921 qui permet de mettre au jour ces sceaux innombrables, gravés comme vous l'avez sous les yeux, alors de ces caractères géométriques qui constituent une écriture, hein, ça ne fait pas de doute, hein, c'est une écriture, ce sont des pictogrammes qui constituent une écriture, mais qu'on ne sait pas déchiffrer, toujours pas aujourd'hui, caractères géométriques qui sont accompagnés de figurations stylisées, surtout des figurations animales comme vous le voyez ici, mais il y a aussi quelques plantes. Donc quelques plantes, et au bout du compte, on a mis au jour, on a rassemblé environ 4200 de ces sceaux qui sont aujourd'hui disséminés un peu partout dans les musées du monde entier. Et parmi ces 4200, 2000 ont été trouvés dans la seule ville de Mohenjo-Daro. Donc c'est quelque chose de très important et c'est pour ça qu'il faut commencer d'emblée par ça, parce que c'est la manifestation la plus emblématique finalement de la civilisation de l'Indus. Voilà, alors je reviens sur ces caractères, sur cette écriture, sur ces pictogrammes. Grâce à ces sceaux, les 4200 sceaux que je viens d'évoquer, on recense 400 pictogrammes qui constituent bien une écriture. Les donc indéchiffrables, on l'a compris, donc pour l'instant c'est indéchiffrable. Les spécialistes pensent même à une écriture proto-dravidienne. Dravidienne. Donc c'est la référence aux Dravidiens, à cette population que l'on rencontre toujours aujourd'hui dans le sud de l'Inde, surtout dans le sud de l'Inde. Cette population à la peau mate, à la peau noire. Ce sont les Dravidiens. Alors c'est intéressant comme proposition, mais ce n'est qu'une proposition, ce n'est qu'une hypothèse, c'est-à-dire que nous aurions là une écriture proto-dravidienne suggérant que les Dravidiens, hein, le berceau finalement géographique des Dravidiens, l'origine des Dravidiens, elle est là, dans la vallée d'Indus, jusqu'au jour où les Aryens arrivent. Hein, Aryens, là vous l'écrivez bien sûr avec un Y, et quand les Aryens arrivent, ils repoussent ces Dravidiens ou proto-Dravidiens en Inde, qui vont se réfugier plutôt dans le sud de l'Inde et qui seront ou qui constitueront la quatrième caste, hein, celle des intouchables. Bon. Donc alors oui, c'est une proposition qui a été faite, bon, mais qui se fonde sur quand même pour l'instant pas, enfin rien, puisque on ne sait pas déchiffrer ces pictogrammes, hein, donc c'est une proposition qui n'est pas quand même fondée, mais intéressante quand même, il fallait la signaler. Alors ensuite, les animaux qui sont représentés de profil sur ces sceaux sont très intéressants, très divers, donc un zébu à gauche, un rhinocéros au milieu, et à droite, alors un buffle si vous voulez, mais c'est un buffle unicorne. Par conséquent, il vaut mieux être prudent, puisqu'on voit bien comment les cornes des animaux naturalistes sont représentées. Donc là, ici, on n'en voit qu'une corne pour ce buffle. Par conséquent, soyons prudents, et donc c'est plutôt l'image d'un animal fabuleux. Et c'est une particularité. Sur ces sceaux, on rencontre beaucoup de représentations d'animaux fantastiques, si vous voulez, dont l'unicorne, le buffle unicorne que vous avez ici. Et alors à côté de ça, donc des éléphants, ou alors des personnages, il y a aussi des personnages. Ce curieux personnage-là que je vous montre, qui est ici en haut à gauche, qui est assis dans une attitude que l'on a qualifiée de méditation. Mais attention, attention, là c'est une interprétation. On interprète ce personnage parce qu'il est assis dans cette position, en lotus si vous voulez, comme étant un personnage méditant. Non, on n'en sait rien. Ou plutôt ce qu'on va faire, c'est on va travailler à l'envers si vous voulez. On va chercher dans le futur une explication pour le passé. On va chercher dans l'Inde et la civilisation indienne qui va arriver, qui va s'épanouir, mais plus tard, donc après la civilisation l'Indus, on va chercher une explication dans le futur pour comprendre ce que l'on a ici sous les yeux. Donc c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, donc on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'est ce personnage qui, par ailleurs, est coiffé curieusement. Alors, est-ce que c'est une coiffe qui est posée sur sa tête, ou bien est-il cornu? Donc dans ce cas, ce serait un personnage fantastique, à caractère divin, pourquoi pas, on pense notamment au dieu celte Cernunnos. Cernunnos est le dieu qui donc est coiffé de ramures de cerf. Hein, il a des bois de cerf sur qui lui poussent de la tête. Donc pourquoi pas un personnage divin de cette sorte. On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas lire ces inscriptions qui sont au-dessus. Hein, donc pas de texte, pas d'histoire. Ça c'est très très gênant. Heureusement que les fouilles archéologiques sont denses à propos de la civilisation de l'Indus, on ne saurait rien de cette civilisation. Et c'est dommage, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'elle est vraiment, c'est une grande civilisation en fait. Elle dispute à la Mésopotamie et à l'Égypte le premier rang de foyer de civilisation. Là, vous avez effectivement trois foyers de civilisation qui sont très très intenses, Mésopotamie, Égypte et vallée de l'Indus. Alors ensuite, d'autres personnages, ou plutôt des monstres fantastiques, comme celui qui est ici, qui est un monstre à trois têtes, cornu, hein, et cornu diversement. Les cornes sont différentes d'une tête à l'autre. Donc il y a bien une part de fantastique, si vous voulez, hein, dans cette représentation. Alors que vous pouvez avoir, là vous retrouvez le zébu, donc une représentation naturaliste, un buffle, c'est le même que tout à l'heure, hein, donc unicorne que l'on retrouve ici, l'éléphant est là, on distingue très bien le buffle du zébu du taureau, le taureau qui est ici, le rhinocéros est là, et puis vous avez alors des scènes qui sont totalement mystérieuses. Alors vous la voyez mal, je vais vous la présenter, vous la décrire, elle est tout à fait étonnante là cette scène. On l'a présentée comme une scène à caractère mythologique, ou cultuel. Enfin bon, c'est pareil finalement, ou c'est très proche. Souvent donc un rite se justifie par un mythe. Donc il y a un mythe effectivement qui est le fondement d'une pratique rituelle. Donc ici on a une file de personnages qui constitue une sorte de spectateurs, sont d'une foule qui regarde quoi? Alors un animal tout à fait fabuleux qui est au-dessus d'eux, à tête humaine, un animal androcéphale, devant lequel se tient un personnage qui est agité. Par agité, il y a une traduction pour agiter, c'est chaman. Le chaman, c'est celui qui s'agite. Alors est-ce le sorcier qui, dans un rituel, s'agite pour contacter les esprits, on ne sait pas. Et il y a, dans un cadre plutôt ovale ici, la représentation d'un personnage monté sur une estrade qui pourrait très bien être une idole, la représentation d'un dieu. Voilà. Et ça, c'est quand même très, très, très dommage qu'on n'ait pas de source textuelle, parce qu'on est incapable de parler de la religion et donc des cultes de cette civilisation de l'Indus. Comme on est incapable de parler de la politique, hein, donc quelle était l'origine politique de cette civilisation, on n'a pas de texte, donc on ne sait pas du tout. Donc ce que l'on a, ce sont ces images-là, qui laissent supposer, oui, qu'il y avait une religion, mais quelle religion, hein, donc nous sommes avant l'arrivée des Aryens, donc on ne sait pas. Donc voilà, alors ça, il fallait les présenter, je pense, d'emblée, là ces sceaux, puisque c'est le fondement, finalement, de la découverte de la civilisation de l'Indus, et puis, bon, ça apporte beaucoup, quand même, hein, déjà, ça apporte beaucoup, même si on ne sait pas déchiffrer les pictogrammes. Ensuite, revenons à la prospérité. Donc, on parlait d'une civilisation prospère, oui, très prospère. Je vous présente ici une image emblématique de la prospérité de la civilisation de l'Indus. Donc, on l'a dit, ce monde urbain, ça veut dire constitué de villes, essentiellement des très très grosses villes, ce monde urbain de l'Indus est d'abord à forte dominante agricole. On y vit de la culture du blé et de l'élevage des bovins. Donc c'est une société, une civilisation qui repose sur des villages qui eux-mêmes exploitent les limons fertiles de l'Indus. Et je vous ai parlé tout à l'heure des techniques de stockage, c'est-à-dire des greniers gigantesques qui laissent supposer qu'il y avait du surplus agricole, un surplus de production. Les techniques de stockage, au même titre que les transports, attestent bien effectivement de l'organisation de ce monde, donc de la prospérité aussi de ce monde. Et il y a une relation avec les villes. Dans les villes, on trouve de larges rues avec des rampes qui permettaient de faire passer ces charrois, comme celui que vous avez ici sous les yeux, là, transportant des récoltes. Et c'est donc une image tout à fait emblématique. Il y a des rues qui pouvaient avoir 10 mètres de large, donc pouvant faire passer deux charrois, donc d'un côté comme de l'autre, bien sûr, dans ces rues de Mohenjo-Daro ou de Harappa. Mais voilà, donc c'est tout à fait typique. Donc ici, vraisemblablement, deux bœufs ou des buffles qui tirent donc un de ces chariots ou charrois qui transportent des jars, ce qui d'emblée, bien sûr, nous fait dire qu'il y a une très grosse production de poterie, dont une part qui est artistique, qui est décorée donc de peinture, etc., etc. Et donc ces jars contiennent la production agricole, et en particulier le blé. Voilà un petit peu. Alors ça, c'est extrêmement commun, ça. Hein. Ça, vous en trouvez, mais d'innombrables, pareillement disséminés partout dans les musées du monde entier. Très caractéristiques de cette civilisation de l'Indus, ce sont toujours de tout petits objets. On ne connaît pas la fonction, la vocation de ces objets. Donc on les a retrouvés partout, c'est-à-dire pas seulement dans les nécropoles ou les tombes, mais aussi dans les maisons qu'on a fouillées à Mohenjo-Daro. Donc on ne sait pas quelle était la fonction, mais c'est quand même des images très, très précieuses pour illustrer la vie tout simplement, et la prospérité de la civilisation de l'Indus. C'est toujours très petit, hein, c'est un très petit format, ça, c'est 10 cm, quoi, 10 cm de long, peut-être 10, 15 cm, pas plus, hein, très petit. Voilà, alors passons aux villes. Même si, vous l'avez compris, les fondements de l'économie agricole, donc de la civilisation de l'Indus, ce sont bien les villages. Mais les villages ont disparu, les archéologues ne les ont pas retrouvés. Donc ils savent que ce sont les villages qui étaient les fondements de l'économie agricole. Mais voilà, on a retrouvé que les villes, et c'est déjà extraordinaire. Bon. Alors on va commencer par... On ne va présenter finalement que celle-ci, parce que les autres sont moins spectaculaires quand même que Mohenjo-Daro. Voilà le plan, donc tout à fait révélateur déjà d'une partie infime de la ville de Mohenjo-Daro. Mais déjà, donc, cet extrait, donc, ce plan, qui n'est qu'une toute petite partie, qu'un tout petit fragment de la ville, révèle un urbanisme développé. C'est vrai ici, c'est vrai à Harappa, c'est vrai à Chanhudaro, c'est vrai dans les autres villes qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que l'on y voit des quartiers qui sont bien délimités, qui sont séparés les uns des autres par de larges rues, se coupant à angle droit, qui sont traversées par des venelles, donc des rues qui sont plus petites et qui donnaient accès aux habitations selon un quadrillage que l'on pourrait déjà qualifier de hippodaméen. Hippodaméen, c'est la référence bien sûr à Hippodamos de Milet, hein, cet architecte de génie qui, au IVe siècle avant notre ère, reconstruit Milet, mais sur un plan qui est orthogonal. Ben voilà, donc là nous sommes plus de 2000 ans avant Hippodamos de Milet, et il existe déjà des villes avec un réseau orthogonal de rues, dont des rues principales qui pouvaient atteindre 10 mètres de large, et des rues secondaires, qui étaient des venelles, si vous voulez, qui conduisaient aux habitations. Et alors souvent ces villes harappéennes, quand on dit harappéenne, c'est pas forcément la référence à Harappa, hein, c'est la référence aussi à Mohenjo-Daro. On parle de la civilisation harappéenne, ou de l'Indus, c'est pareil, hein. Donc elles fonctionnent un peu de la même façon, c'est-à-dire que souvent c'est à l'est de la ville qu'on trouve la partie résidentielle, donc les maisons, si vous voulez, les maisons, les habitations, dont les dépendances entourent systématiquement des cours rectangulaires. Là aussi, vous voyez, donc on n'a pas attendu, ben je ne sais pas, les maisons grecques avec leur péristyle, leur cour à péristyle, pour voir cette organisation. Donc une cour autour de laquelle s'articulent des pièces. Voilà. Donc c'est vrai ici à Mohenjo-Daro, c'est vrai aussi à Harappa. Donc les gens vivaient dans des maisons qui étaient extrêmement confortables, qui étaient pourvues de puits. Les gens jouissaient d'un système élaboré d'adduction d'eau. L'eau courante chez eux, dans leur maison, ou encore de systèmes d'égouts qui permettaient aux demeures les plus riches, bien sûr, de disposer d'un bain particulier. Donc les conduites d'eau permettaient d'avoir une pièce d'eau qui était une salle de bain, si vous voulez. On a même retrouvé dans certaines de ces maisons des toilettes, des latrines, si vous voulez, hein. Donc c'est déjà très très spectaculaire pour l'époque, hein. Je vous parle d'une ville qui a 4500 ans, hein, une ville qui existe au moins à partir de 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est effectivement exceptionnel. Donc ça c'est à l'est, c'est-à-dire la partie résidentielle, les maisons. À l'ouest se trouve généralement la citadelle ou acropole, accueillant des édifices publics, du moins on s'en doute, parce que l'architecture est très différente que dans la partie résidentielle, des réserves de grains, donc les greniers que j'évoquais tout à l'heure ont été retrouvés du côté de la citadelle ou acropole, protégés donc par un mur défensif, et sans doute que les sanctuaires étaient de ce côté-là, à l'ouest, dans la citadelle, mais là aussi c'est pareil. Les archéologues ont du mal à définir la vocation, la fonction de ces édifices qu'on a trouvés au niveau de la citadelle, de l'acropole, hein. Donc les bâtiments publics, soit, mais ils servaient à quoi? Quel est l'origine politique? On ne sait pas. Des bâtiments religieux, soit, mais quelle est la religion? Quels sont les dieux donc de cette situation? On ne sait pas non plus. Donc c'est très délicat. Donc voici une vue aérienne de Mohenjo-Daro. Bon, ma photo est pas terrible, mais enfin ça donne une idée quand même. Ça donne une idée. Donc la citadelle à l'ouest est ici. Voilà, donc on voit bien le promontoire, c'est-à-dire le promontoire, donc l'acropole. Au sommet de l'acropole, une tour, disons défensive, hein, pour simplifier, et c'est là que se trouvent donc ces prétendus bâtiments publics et bâtiments religieux. À l'est, la zone résidentielle, donc les maisons, et sur la photo aérienne, on se rend compte effectivement que c'est très étendu, puisque un peu plus loin, attention, c'est une photo aérienne, donc on peut dire très loin, là se trouvent encore des vestiges de la ville de Mohenjo-Daro, donc de la civilisation d'Indus, ou encore ici, ou encore là, vous avez des vestiges. Et en fait, les fouilles ont révélé une ville extrêmement étendue, si bien que au jour d'aujourd'hui, seulement un dixième de la surface totale de cette cité antique a été fouillée. Hein, pour tout dire, en fait, c'est la partie ouest avec sa citadelle, la partie est avec donc les maisons. Et donc on sait que la ville était étendue et très peuplée, très très peuplée. Donc c'est une très grande ville. Quelques archéologues vont jusqu'à dire ceci, c'est sans doute la plus grande métropole de toute l'Antiquité. Que vous soyez en Égypte, que vous soyez en Mésopotamie, ou alors en Chine, pourquoi pas, la plus grande ville de l'Antiquité aurait été Mohenjo-Daro. Avec Harappa, parce qu'Harappa était une ville aussi importante, sinon plus importante encore que Mohenjo-Daro. Alors bon, ça laisse un peu rêveur, mais effectivement, là, ici, la vue aérienne, même si ma photo n'est pas terrible, elle permet de comprendre ça, hein, que la ville était étendue et surtout une ville très peuplée. Alors ensuite, on va se rapprocher, là, de la citadelle qui est ici, donc de l'acropole. Voici la même vue, mais rapprochée donc, de la citadelle en question. On y retrouve alors le promontoire rocheux hein, qu'on évoquait, ce bâtiment qui est une sorte de tour ronde, entourée de bâtiments publics. Enfin, on ne sait pas, pas de texte, pas d'histoire, pas de... On ne connaît pas. Donc d'autres bâtiments. Tout ce que l'on peut dire, c'est que ces bâtiments-là sont très différents de ceux que l'on trouve dans la zone résidentielle. Ce ne sont pas des maisons d'habitation, pour faire simple. Voilà, donc la citadelle était fortifiée, protégée par un rempart que l'on ne voit pas ici. Mais enfin, on le sait. Et puis alors là, il y a quelque chose là qui est quand même assez étonnant. Voilà, à ce niveau-là. Une piscine. Voilà, une vraie piscine. Mais une vraie de vraie piscine. Hein. Donc je vous la présente, cette piscine, différemment, c'est-à-dire que là, donc le photographe va se situer, disons, à l'angle de la piscine à ce niveau-là, et va nous permettre d'avoir une perspective, là, comme ça, en direction de la tour ronde qui est ici. Hein. Donc voilà la photo, et donc au premier plan, la piscine, que l'on voyait à l'instant sur la photo aérienne. Donc c'est une vraie piscine, oui, c'était une vraie piscine, assez vaste, assez profonde, donc j'en profite pour attirer votre attention sur la tour, hein, qui tout d'un coup, là, prend une dimension donc assez impressionnante, parce qu'effectivement, les vues aériennes écrasent hein, donc les volumes des bâtiments. Et je vous montre encore différemment, selon un autre angle de vue, ce bassin, cette piscine, qui est appelée d'ailleurs bain sacré. C'est déjà une interprétation, on ne sait pas, mais on l'a interprété comme ça. Donc voici ce même bain sacré, photographié différemment. C'est un vaste bassin rectangulaire en briques cuites. Je vous donne ces dimensions. Le long côté, c'est 11,70 m. Le petit côté, c'est 6,90 m. Et la profondeur, 2,40 m. Donc, c'est les proportions de votre piscine que vous avez chez vous, dans votre maison, votre villa, enfin, je ne sais pas. Donc, une vraie piscine. D'ailleurs, les archéologues ont même retrouvé une couche de bitume entre le revêtement et le corps de la maçonnerie. Le bitume garantissant l'étanchéité du bassin en question. Donc c'est tout à fait effectivement remarquable. Donc 2,40 m de profondeur. Remarquez que la piscine est percée sur deux côtés d'escaliers symétriques. Ici et donc au premier plan, parfaitement comparable. Les archéologues ont pu déterminer que les marches étaient revêtues à l'origine de bois. Donc c'était des marches en bois, ou du moins donc la brique était revêtue de bois. Et autrefois, la piscine, on le voit d'ailleurs ici très bien, était entourée de piliers formant une galerie. Alors les piliers sont encore visibles, ou du moins la base des piliers. Vous voyez, on voit très bien ici ces piliers. Ce qu'on voyait très bien aussi sur la vue aérienne. Hein. Je peux revenir là, vous voyez, donc on voit très bien effectivement les piliers qui sont ici, qui forment une galerie, une sorte de portique. Et donc on comprendra que ça n'est pas une piscine, alors c'est pas une piscine olympique, c'est pas une piscine donc pour simplement patauger. Non, surtout pas là, donc c'est-à-dire là, c'est à l'ouest, dans la citadelle, dans la zone qui est la plus, enfin la zone de l'acropole en fait. Bon, alors c'est ça qui a fait dire aux spécialistes que ce grand bain était peut-être réservé à un usage cultuel, donc à des rites qui sont des rites de purification par l'eau bien sûr, des rites d'ablution corporelle, ou alors plus on peut imaginer, un peu comme les fonts baptismaux, les baptistères paléochrétiens qui étaient dotés comme ça de cuves baptismales suffisamment profondes pour assurer un baptême par immersion. On pourrait très bien imaginer des rituels d'immersion, on ne va pas dire baptême, mais des rituels d'immersion dans cette piscine qui est effectivement très profonde. Alors voilà, bon, donc effectivement, mais là aussi, remarquez effectivement comment on s'y prend. On va chercher quand même dans le futur de l'histoire donc de l'Inde, on va chercher donc une explication pour ce bain sacré que vous avez sous les yeux, car donc vous le savez, ces rites de purification par l'eau, ces rites d'ablution corporelle, c'est une pratique qui va se développer considérablement dans la tradition religieuse ultérieure de de l'Inde. Les hindouistes sont très très attachés à ces bains, corporels. Alors, est-ce qu'il faut faire le lien? Je ne sais pas. En tout cas, c'est jamais une bonne méthode de travail, hein, d'aller chercher dans le futur une explication pour ce que l'on a dans le passé. Ensuite, rajoutons quand même que l'on a trouvé, à côté de ce grand bain, un ensemble de 8 cellules, donc tout à côté, dans cette partie de la citadelle ou de l'acropole, 8 cellules qui étaient dotées de salles d'ablution. Donc il y a, on pourrait presque dire ceci, il y a une sorte d'obsession de l'eau à Mohenjo Daro. Une obsession de l'eau, alors dans les maisons, je l'ai dit, il y a des conduites d'eau, donc il y a l'eau courante dans les maisons, d'une part, il y a des puits partout dans la ville, il y a cette piscine que je vous présente, et il y a donc ces cellules dotées de salles d'ablution, comme si finalement l'hygiène dans la civilisation arapéenne était un point fondamental. Alors que cette hygiène est une vocation, donc une fonction religieuse, cultuelle, rituelle, hein, ou pas, donc là on ne sait pas. Donc en tout cas, l'importance dévolue à l'hygiène dans l'urbanisme arapéen est vraiment frappant. C'est quelque chose de très très frappant. Donc ça, c'est la citadelle, donc l'acropole de Mohenjo-Daro. Passons aux maisons. Alors voici un aspect donc de la ville de Mohenjo-Daro. C'est toujours la ville de Mohenjo-Daro. Avec d'ailleurs, on peut le remarquer déjà, un escalier qui donc conduit à un étage. Donc ça fait dire effectivement qu'il y avait des maisons à au moins donc un étage, un rez-de-chaussée et un étage au moins. Donc là, c'est l'image de la ville basse. La ville basse se présente à peu près comme ça. Donc, mais je vais vous présenter d'autres photos de la ville basse. Donc, quadrillée, suivant un plan rectiligne, par un réseau, vous l'avez vu tout à l'heure sur le plan, un réseau plutôt dense, de rues longues et larges et de ruelles. Orientées, hein, l'orientation est rigoureuse, nord-sud, est-ouest, on se croirait dans un castrum finalement gallo-romain, ou une ville hippodaméenne, pourquoi pas. Ces rues et ruelles délimitaient des blocs d'habitation, donc pareillement rectangulaires. Donc la construction est en briques, mais ça c'est une obligation, hein, c'est que tout simplement dans cette plaine alluviale de l'Indus, il n'y a pas de pierre. Donc c'est la brique qui va l'emporter. Généralement, les fondations sont en briques crues et les murs sont construits en briques cuites. Hein, c'est la règle ici, c'est plutôt la règle. Bon. Quoi qu'il en soit, les briques cuites sont jointoyées. Ces briques sont faites dans des moules qui sont identiques, donc identiques de taille, identiques de forme, identiques de qualité. Et ce qui est surprenant, c'est que ce type de briques, avec la même taille, la même qualité et la même forme, se retrouve dans d'autres sites de la civilisation de l'Indus. Donc c'est ce que remarquent les archéologues. Alors ça, c'est quelque chose de très très précieux. Ça témoigne de l'uniformité culturelle, matérielle. Enfin, on va le tourner comme ça. Ça témoigne de l'uniformité de la culture matérielle arapéenne. Donc au moins ça, on peut le dire. Si on ne peut pas parler du régime politique, si on ne peut pas parler de la religion de ces Arapéens, on peut au moins dire cela sur la base des techniques de construction, qu'il y a une uniformité de la culture matérielle dans la civilisation de l'Indus. Hein. Donc des briques qui sont identiques, même taille, même forme, même qualité, un peu partout. Et pas seulement à Mohenjo-Daro. Voilà, alors voici d'autres vues de la même ville de Mohenjo-Daro, donc les rues, rues-ruelles. Alors on peut développer, donc les maisons étaient de taille variée, donc il y avait des maisons riches, des maisons moins riches, donc de taille variée. Elles pouvaient comporter, on l'a vu, un étage, en tout cas on a repéré un escalier. Donc elles sont dotées, alors là on le voit très bien sur ces photos, de hauts murs, mais des hauts murs qui sont dépourvus de fenêtres. En tout cas, pas de fenêtres ouvrant sur l'extérieur, donc sur la rue. Par contre, n'oubliez pas la cour intérieure. Donc là, de ce côté, bien sûr, vient la lumière, si vous voulez. La lumière vient de l'intérieur, de la cour. Vraisemblablement, les toits étaient plats. Et ça rappelle quand même un petit peu l'habitat que l'on trouve à Çatalhöyük. Çatalhöyük, c'est sans doute la plus vieille ville connue de l'humanité, au cœur de l'Anatolie, donc au centre de la Turquie aujourd'hui. Çatalhöyük est une ville qui est attestée dès le début de l'époque néolithique, hein, c'est-à-dire 9000, 8000 avant notre ère. C'est donc très très ancien, Çatalhöyük, mais qui ne présente pas un urbanisme comparable à Mohenjo-Daro. L'urbanisme est constitué de maisons agglomérées, hein, sur une pente, sur une colline. Hein. Cependant, les maisons de Çatalhöyük sont un peu comparables, c'est-à-dire pas d'ouverture du tout sur l'extérieur, agglomérées les unes sur les autres, et donc des toits plats. Voilà. Donc là, par contre, elles sont donc bien sûr séparées par des ruelles, des venelles et des rues principales, dans des quartiers qui sont eux aussi bien délimités. Ça, vous l'avez compris. Donc, je reviens sur l'organisation. Donc, le plan est identique. Il y a toujours cette cour intérieure carrée, entourée d'un nombre variable de pièces. Pour les logements les plus modestes, deux pièces, mais la cour carrée est toujours là. Donc, pour les logements les plus modestes, deux pièces seulement. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'elles sont équipées, ces maisons, d'une pièce d'allée, faisant office de salle d'eau, dotée parfois de latrine, ce qui nous amène au réseau extensif de la ville, qui est très très impressionnant. C'est ce côté-là qui est vraiment frappant. Et donc, encore une fois, on peut en tirer des conclusions, si vous voulez. Les archéologues en tiré des conclusions remarquables. Donc, le réseau extensif de la ville est constitué d'abord de caniveaux en briques, légèrement encastré dans la chaussée et primitivement recouvert. Ensuite, un réseau extensif constitué d'égouts, collecteurs, de fosses de décantation, qui donc bien sûr vont avec les égouts collecteurs, qui permettaient donc l'évacuation des eaux usées, mais il y avait des fosses de décantation, et tout cela atteste d'un souci d'hygiène. Donc il y a vraiment donc un souci d'hygiène chez ces gens-là. Mais au-delà de ça, il faut remarquer un autre souci, qui est celui de la planification urbaine. Tout ça, c'est pensé, c'est rationnel. Hein. On pensait qu'il avait fallu attendre Hippodamos de Milet pour avoir ce type de ville pensée, rationnelle, etc. Non, ça existe dès cette époque-là. Donc la planification urbaine, est inutile de dire que cette planification urbaine qui est démontrée par les archéologues est sans équivalent dans les agglomérations contemporaines du Proche-Orient ancien. Il n'y a que cette ville, ou ces villes, comme Harappa, Çamlıdaro, qui sont comparables. C'est vraiment très impressionnant. Les maisons pouvaient posséder des puits dans leur cour. Hein. Donc, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de puits, à usage privé, construits comme vous l'avez ici, donc en briques à claveaux, des puits publics qui assuraient l'alimentation en eau de la ville. Et là, ça vous donne une idée d'ensemble hein, de ce qu'est la ville de Mohenjo-Daro, à quoi donc on va ajouter un phénomène qui s'est produit au fil des siècles. Ah, n'oubliez pas, Mohenjo-Daro, c'est une ville qui a existé 1000 ans. 1000 ans. C'est beaucoup, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, 1000 ans d'existence. Donc, forcément, avec les siècles, il se produit un phénomène qui est assez curieux, qui est un phénomène de surélévation du sol. Le sol monte. Le sol monte. Alors, c'est très impressionnant hein, quand vous allez à Barcelone. C'est frappant, ça, quand vous allez visiter le musée d'histoire de Barcelone. Vous prenez d'emblée un ascenseur qui vous descend au niveau moins 12. Vous trompez pas, moins 12, c'est l'année. C'est l'année, moins 12 avant notre ère. Et à partir de là, vous faites la visite sous la ville, de ce qu'était la ville antique de Barcelone. Hein, mais vous êtes très en profondeur, si vous voulez. Hein. Donc, vous êtes enterré. Ou alors, c'est le fameux marché, là, à Barcelone, le marché, la halle du XIXe siècle, qui recouvre, une zone archéologique, mais qui est assez enfoncée dans le sol, qui a été exhumée du sol. Mais les maisons que l'on voit, qui sont enterrées, datent du XVIe siècle, seulement, de notre ère. Donc il y a le phénomène, si vous voulez, on ne s'en rend pas compte à l'échelle de notre génération, d'une vie, on ne s'en rend pas compte, et il y a ce phénomène de surélévation du sol, si vous voulez. Et alors, ici, à Mohenjo-Daro, on remarque ce rehaussement progressif de la ville, si vous voulez, mais qui est là aussi pensé, qui est parfaitement planifié, qui est parfaitement réfléchi, géré, si vous voulez, par des gens, lesquels on ne sait pas, bien sûr, mais les archéologues ont bien démontré un rehaussement progressif de ces puits que je vous ai montrés. Effectivement, les puits, ben, il fallait au fur et à mesure, hein, comprenez bien, siècle après siècle, hein, ça se joue sur des siècles, donc il fallait les rehausser, les puits, ainsi que les canalisations, ainsi que les rez-de-chaussée des maisons, qui finissaient par être totalement enterrées, donc rehausser ces maisons, donner l'illusion d'étages, de maisons à étages, et on a rehaussé encore les rues qui sont ici, qui sont pavées de nouveau, en fait, elles correspondent à un niveau assez haut par rapport à l'origine de la ville. Bon, mais ce qui est frappant ici, c'est que ce rehaussement progressif de la ville témoigne, une fois de plus, d'une véritable volonté de planification urbaine. Les gens de Mohenjo-Daro, quelle que soit la génération, ne voulaient pas voir leur ville dépérir, hein, donc péricliter. Et donc ils étaient attachés à l'aménager, donc à la restaurer, à la rendre toujours viable finalement. Hein. Bon, alors ça prouve quelque chose, une forte structure sociale. On ne sait pas parler de la politique et du régime politique de cette civilisation de l'Indus, mais au moins ce que je viens d'exposer là, hein, grâce aux archéologues, ça prouve l'existence d'une forte structure sociale avec une hiérarchie dans la société et une autorité centrale, puissante, quelle qu'elle soit, un roi ou autre chose, ou donc une oligarchie, on ne sait pas, mais enfin, il y a une autorité centrale puissante qui donne des ordres, une hiérarchie, une structure sociale qui est extrêmement fondée. Voilà pour ces villes, donc c'est le point principal, hein, je le redis, la civilisation de l'Indus est une civilisation urbaine. Hein, ce qui est frappant, ce sont ces villes étendues, très vastes et très peuplées. L'autre ville, Harappa, bon, j'ai rien à en dire, hein, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que ici aussi, les fondations des constructions sont en briques crues, les parties élevées au-dessus du sol en briques cuites, et ces briques cuites sont scellées par un mortier à base de gypse. On y a trouvé des bâtiments publics, dans la zone, bien sûr, de la citadelle. Le problème, c'est que la destination est très discutée, hein, de ces bâtiments publics, mais là encore, ces bâtiments soulignent le caractère organisé, centralisé de l'économie et de la société harappéenne. Donc, citadelles fortifiées, moulins, fours publics, des greniers ou des équipements qui soulignent l'importance du commerce, comme par exemple des ports, des molles, des embarcadères qui ont été mis au jour par les archéologues. Donc des échanges qui sont très, très denses avec les cités marchandes du sud de l'Iran ou les cités de Mésopotamie. Tout ça a été prouvé par les archéologues. On sait tout ça, hein, voilà. Alors par contre, le problème, c'est surtout les lieux de culte. En fait, dans aucune de ces villes, on trouve assurément un temple ou un lieu de culte. Donc on a de fortes présomptions pour le bain sacré que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est des suppositions, ce sont des hypothèses, il n'y a aucune certitude. Donc on ne sait pas parler du tout de la religion de ces gens, non plus que du régime politique, ça vous l'avez compris. Passons alors à la production artistique. Ça, c'est un autre aspect, ça, hein, de la situation de l'Indus. Donc, on a dit, bon, elle repose sur l'agriculture, elle est très prospère, il y a un commerce très dense, les villes sont très étendues, bon, c'est une société très riche, quoi, en un mot. Bon. Et alors, on se doute que dans ces villes, il y a des artisans, il y a beaucoup d'artisans, en fait, hein, et c'est ce que démontre le matériel archéologique qui est abondant. Plusieurs types d'objets retiennent l'attention, en particulier la céramique. Après les sceaux, les sceaux qu'on a vus. La céramique, bien sûr, est incontournable. C'est une très, très grosse production dans la civilisation de l'Indus. Donc, c'est une poterie qui est décorée de motifs géométriques peints. Ces motifs géométriques sont divers, mais souvent, c'est un jeu de demi-courbes qui suggère, donc par leur association, des fleurs stylisées. C'est ce que vous avez ici à droite. Hein, d'ailleurs, la poterie qui est à droite est sans doute la plus emblématique de la production arapéenne. Donc des demi-cercles qui, associés, forment comme des fleurs stylisées. Mais sinon, c'est bien le motif géométrique qui l'emporte. Plutôt, le motif géométrique qui l'emporte. Avec quelques animaux, bon, très stylisés sur ces poteries. Par exemple, sur la poterie qui vient de Mohenjo-Daro, un bouquetin, alors là on se croirait carrément revenu à l'époque néolithique, hein, donc à l'époque néolithique, bon il y a partout dans le monde, dans la situation néolithique, en Europe, au Proche-Orient, donc une production comparable. Où là, donc, l'animal est très stylisé, on insiste sur le motif le plus symbolique, le plus porteur de sens, donc les cornes du bouquetin, qui sont démesurées par rapport au reste, finalement, de l'animal. Hein. Encadrées, donc il y a un cadre, comme un tableau, si vous voulez, qui est constitué de lignes horizontales ou verticales redoublées en parallèle, et à l'intérieur du cadre, d'autres lignes ou traits, on va dire plutôt des traits horizontaux, qui sont aussi mis en parallèle. Sans qu'on puisse dire ce que c'est, bien sûr. Ici, alors sur la jarre à décor peint qui vient de Shonhudaro, si vous n'aviez pas eu l'occasion de voir, donc enfin de lire l'orthographe de Shonhudaro, ben là vous le lisez mieux, là, Shonhudaro. Voilà, donc alors là, sur cette jarre, vous avez sur la partie supérieure, vous avez des oiseaux, hein, des oiseaux, on voit très bien les pattes ici, donc des oiseaux là et là, dont le corps est important. En fait, on devrait dire c'est le plumage qui a de l'importance, c'est la queue, en fait, les plumes qui constituent la queue de l'oiseau, qui ont de l'importance. Hein. Donc vraisemblablement des pans, mais enfin on n'en sait rien après tout, parce que l'animal est quand même très stylisé, et le cou de l'animal est... Alors là, c'est plus rien du tout. Donc le cou disparaît dans un jeu de rinceaux, de rinceaux végétaux, on ne voit même pas la tête de l'oiseau. Alors ça c'est très emblématique, ce type de production, c'est vraiment oui, la poterie emblème là, de la civilisation arapéenne. Ici, en voici une qui est très caractéristique. Donc on va retrouver les motifs en demi-cercle, qui associés forment comme des fleurs stylisées. Le registre supérieur présente bien des motifs géométriques, de losanges, avec à l'intérieur des cercles pointés. Et on retrouve ces cercles pointés dans un registre supérieur. Tandis que là, quelques oiseaux, suggérant peut-être les oiseaux de la vallée de l'Indus, de l'Indus qu'on trouve donc sur l'Indus. Mais des oiseaux très stylisés, là aussi ils sont à peine reconnaissables. Donc, dans ces riches cités, quelles qu'elles soient, donc Harappa, Mohenjo-Daro, Shonhudaro et d'autres, les artisans étaient nombreux, qui travaillaient tous les matériaux. Hein. Ils travaillaient l'argile, donc la poterie, la céramique, le cuivre, ça veut dire le bronze. Cuivre éteint, ça donne du bronze. Ils travaillaient la pierre, la stéatite, on l'a vu, ce sont les sceaux. L'os était aussi travaillé. César semble témoigner d'une certaine liberté intellectuelle et religieuse. Mais là aussi, c'est très fragile comme hypothèse, comme proposition. Ça repose sur quoi? Sur une grosse production artistique. Donc, des arts qui sont diversifiés, qui sont très différents, très libres, si vous voulez. Voilà. Donc, une inspiration artistique est effectivement très diversifiée et qui tend à laisser penser que, oui, il y avait une liberté intellectuelle et religieuse. Alors, liberté intellectuelle, ça veut dire liberté culturelle. L'art, c'est de la culture. Hein. Donc, on laisse les artistes créer ce qu'ils veulent, en fait. Hein. Bon, mais c'est quand même fragile comme proposition. Le problème, c'est toujours l'absence de texte. Voilà, puis donc, des fouilles systématiques entreprises dans cette vallée de l'Indus ont permis de découvrir des œuvres produites sur cette période de 1000 ans par des artisans divers, mais des œuvres dont le style est vraiment très différent. Hein. D'une œuvre à l'autre, le style peut varier considérablement. Donc, c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant, donc la diversité stylistique des arts arapéens. Alors, on peut commencer par ça qui nous relie à l'époque néolithique. politique, mais qui correspond bien à une production arapéenne, donc la civilisation de l'Indus. Voilà, cependant, là, voilà, là, vous retrouvez le nom que j'évoquais tout à l'heure, cette ville néolithique, ce site néolithique de Mergar, à l'ouest de la vallée de l'Indus, au Pakistan aujourd'hui, qui est un site néolithique très, très important, qui a été fouillé par un Français. Il s'appelle Jean-François Jarige et son équipe, qui, entre 1974 et 1985, fouillait ce site et démontrait quelque chose, que Mergar est le tout premier site de fermage pour l'Asie du Sud. Pour toute l'Asie du Sud, le tout premier site de fermage connu, qui remonte à 7000 avant notre ère, c'est le site de Mergar. Donc c'est effectivement un site très important, où on a retrouvé par ailleurs les plus anciennes poteries pour toute l'Asie du Sud. Elles se trouvent ici à Mergar. Donc c'est un témoignage qui remonte à 7000 avant notre ère. Là je vous parle de Mergar. Hein, donc, mais la figurine féminine qui est ici correspond bien à l'époque de la civilisation de l'Indus. Hein, donc, c'est-à-dire, on va dire 2500-2000 avant notre ère. Hein. Donc, ainsi vous comprenez qu'il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de rupture dans l'histoire entre le site de Mergar néolithique et le site de Mergar arapéen. Donc c'est une continuité. Satan a démontré ce que je disais tout à l'heure. Donc cette civilisation de l'Indus, qui est incroyable, n'est pas pour autant soudaine et mystérieuse. Elle est l'aboutissement de ce qui existait déjà à l'époque néolithique. C'est pour ça que je vous parle de Mergar comme ça. Donc effectivement, là vous avez une production qui est bien arapéenne. Hein, on est dans le cadre de la civilisation arapéenne, mais c'est trouvé à Mergar. Bon, je résiste pas à la tentation, quand même, de préciser que ce Jean-François Jarige, il a eu l'opportunité de fouiller au Pakistan. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait. Voilà, non, mais c'est triste actualité, quoi. C'est-à-dire que plus ça va et moins ça va, quoi. Donc, et bien sûr, c'est à chaque fois, donc c'est la culture qui va prendre un coup de massue, quoi. C'est terrible. Donc, alors que la culture devrait nous aider, donc à nous épanouir et donc à mieux comprendre notre passé, notre histoire, finalement, donc l'actualité freine des découvertes archéologiques. Hein, je dis pas qu'on les fera pas plus tard, bon, mais enfin ça freine des découvertes archéologiques et voilà, et donc et on perd forcément, donc on perd des choses, des sites archéologiques, des vestiges qui sont incomparables. Bon, alors donc comparons cette figurine féminine que vous pouvez qualifier presque de déesse mère. Vous pouvez la qualifier presque de Vénus préhistorique, bien sûr. Elle est dans la continuité, avec ses caractéristiques, des Vénus préhistoriques, il en existe dès l'époque paléolithique. C'est-à-dire que les plus anciennes remontent à 40 000, 50 000 avant notre ère. Enfin, il y a 40 000 ans de ça, on produisait déjà des Vénus préhistoriques. Donc, tout à fait caractéristiques. C'est-à-dire, ce sont les attributs féminins, les attributs sexuels qui sont mis en évidence, la poitrine en particulier, les hanches ici, tandis que le reste se réduit à rien, notamment les jambes ou les pieds, carrément, donc de cette figure féminine. La tête est une abstraction, mais par contre, la figure est coiffée, parée. Et la parure, parce que c'est une parure, plus qu'un vêtement en fait, un vêtement aurait caché les seins ici, non. Donc c'est une parure tout à fait impressionnante, et une coiffure qu'il est tout autant. Alors comparons cette... C'est une Vénus préhistorique, c'est-à-dire vraiment c'est très petit. Là, bon, j'ai pas la dimension, pour les autres non plus, là, celle-ci, j'ai pas la dimension non plus. Mais enfin, donc, vous estimez la dimension à 10 cm, c'est toujours à peu près ça, quoi. C'est très petit, toujours très petit. Alors, en voici une qui a été trouvée à Mohenjo-Daro, fin du 3e millénaire de notre ère, enfin contemporaine de la précédente, mais elle a été trouvée à Mohenjo-Daro, et caractéristique, bien sûr, de cette production arapéenne. Alors là aussi, c'est pareil. Donc, c'est bien une figure féminine. Là, j'ai mis déesse mère, mais c'est une interprétation. On ne sait pas, en fait. Hein. Donc, figure féminine. Les hanches le disent, la poitrine aussi, et sans doute, la parure qui est très impressionnante, la coiffure très élaborée, la ceinture est aussi assez importante. Et on va trouver ce type de représentation de figure féminine à Harappa. Voilà la version qu'on trouve à Harappa. Celles-ci, elles sont innombrables. Hein. C'est un peu comme les sceaux, peut-être pas autant que les sceaux, mais enfin, on en a trouvé des quantités, hein, de ces figures féminines harappéennes. Donc là aussi, on va retrouver la ceinture au niveau des hanches, une coiffure très élaborée, des pans de loques qui sont énormes. Hein. On pourrait imaginer que ça provoque des déformations corporelles, hein, que l'anatomie est atteinte. Et justement, à ce propos, comment expliquer ces yeux? Est-ce que c'est donc l'artiste qui va finalement inventer ces yeux qui sont à la fois globuleux, enfin même exorbités et fendus, ou bien c'est la réalité? Et ça pourrait être la réalité. Hein. Donc vous savez que souvent, on s'inflige comme ça, donc c'est dans les civilisations donc diverses et surtout l'Antiquité, on s'infligeait donc des scarifications, une parure qui peut effectivement être intégrée carrément donc au corps et qui peut provoquer des déformations à force. On ne sait pas du tout. Donc on pourrait très bien imaginer que c'est une sorte de pratique finalement qui gonfle comme ça le regard. Mais on ne sait pas du tout. En voici une autre, celle-ci a été trouvée à Mergare aussi. Ah ben voilà, là vous avez une dimension, 12 cm, voilà, donc la date c'est bien sûr, ça correspond parfaitement à l'époque de la civilisation de l'Indus, un petit peu avant, mais enfin bon, la civilisation de l'Indus existait avant 2500, elle est à son apogée à partir de 2500, donc Mergare au Pakistan, donc là c'est une figure tout à fait conforme, hein. C'est ce type de figure féminine, sorte de déesse mère ou de Vénus préhistorique. Donc c'est bien une figure féminine. La tête est abstraite, hein, une abstraction avec des yeux tout ronds, un nez qui ressemble plutôt à un bec d'oiseau, la bouche qui est extrêmement réduite, mais la coiffure très élaborée. La parure aussi est très impressionnante. Et elle tient dans ses bras un enfant macrocéphale, mais la tête justement est identique à celle de la mère. Donc la mère allait de son petit, on le comprendra aisément, puisqu'on voit effectivement que la bouche va correspondre à peu près au sein gauche de cette figure féminine. Et donc là on détermine un type de figure féminine qui existe depuis toujours, c'est-à-dire c'est la figure féminine allaitant, qui allait de son petit, si bien qu'on peut faire des comparaisons avec celle que l'on a trouvée en Mésopotamie, ici par exemple à Ur, mais qui est plus ancienne, celle-ci plus ancienne, qui a plus 3500 avant notre ère. Ça correspond à ce qu'on appelle la culture d'Obeid, El Obeid. Donc c'est une culture de la fin de la période néolithique, mais en Mésopotamie, et qui correspond à la région de Ur. Ur, c'est en basse Mésopotamie, sud de la Mésopotamie. Donc une terre cuite qui n'est pas très grande, avec une particularité, outre la sexualité qui est toujours signifiée, c'est le mot. Donc le triangle qui se répète, inscrit dans d'autres triangles, qui signale le sexe, bien sûr, la poitrine est rendue. Outre cela, ce qui est frappant, c'est la tête de serpent. Donc elle tient son petit dans ses bras, qui a aussi une tête de serpent, et donc elle allaite son petit. Voici la version qu'on a trouvée à Chypre. Donc là, qui date de... C'est pareil, hein, c'est la même époque, 3e, 2e millénaire, mais c'est pas la même civilisation du tout. Donc là aussi, il y a des points communs et des différences. Le point commun, c'est assez curieux, ce sont les yeux ronds et le nez qui est proéminent, comme pour la version de Mergare. Hein, c'est surprenant. Alors, je vous parlais tout à l'heure de différences stylistiques, de différences frappantes entre les arts produits par ces artisans de la civilisation harappéenne. C'est très très frappant. On ne sait pas expliquer ces différences stylistiques. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on n'a pas de texte. Sans texte, on ne peut pas établir un cadre culturel complet, surtout un cadre culturel qui est aussi chronologique, et de voir dans ce cadre chronologique une évolution de l'art. Et donc on ne comprend pas comment on passe de ça à ça, par exemple. C'est très différent, et pourtant non, c'est toujours la même chose, la civilisation de l'Indus, c'est une production typique là aussi, hein, de la civilisation de l'Indus. Voilà, donc buste dit du roi-prêtre. Inutile de dire que roi-prêtre est une interprétation. On ne sait pas, mais enfin on le présente comme ça. Donc des détails traités avec grand soin attirent l'attention. Les yeux qui sont assez importants sur le visage, voire globuleux, en amande, incisés, ou alors ces motifs tréflés en légère saillie sur le vêtement du personnage. Le personnage est un dignitaire, on ne sait pas si c'est un dignitaire religieux, mais enfin c'est un dignitaire, il est barbu, coiffé d'un bandeau ou carrément d'un diadème. Allez savoir si ça n'est pas effectivement un bijou qu'il porte ici, donc ce serait dans ce cas un diadème. Son vêtement est décoré de ces motifs de trèfle, et le personnage était entier, hein, à l'origine, hein, c'est-à-dire qu'il avait ses bras, il avait ses jambes, mais on a retrouvé de lui que sa tête et ses épaules. Donc on a fait l'hypothèse d'une autorité religieuse. On dit c'est le roi prêtre de Mohenjo-Daro. Bon. Donc pourquoi ? En raison des yeux entrouverts, et les archéologues qui avancent cette hypothèse disent, les yeux entrouverts indiquent que l'homme est absorbé dans la méditation, comme les dieux et les ascètes dans l'art indien. Alors effectivement, dans l'art indien, à venir, on trouvera ce genre de choses, des yeux mi-clos comme ça, qui renvoient à la méditation des dieux ou des yogis. Mais enfin, la méthode, là, n'est pas acceptable, une fois de plus. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un roi, un prêtre. Un roi-prêtre, c'est facile, c'est idéal même. Et puis, ça existe, hein, surtout. Hein, il y a beaucoup de cités-états qui, sous l'Antiquité, au Proche-Orient ou ailleurs, sont gouvernés par un roi-prêtre. A priori, la prérogative religieuse appartient au souverain. C'est le souverain qui est le premier d'entre les prêtres. Ça durera jusqu'à ce que l'évêque de Rome décide un beau jour de récupérer à son compte ce titre de Pontifex Maximus, qui était bien sûr dévolu à l'empereur. L'empereur est le Pontifex Maximus. Ce qui posera des problèmes, hein, des problèmes religieux, ben, qui sont les nôtres, qui sont les problèmes de notre histoire à nous, finalement. Mais pas la leur. J'insiste sur les traits physiques, sur la cohérence aussi, sur la cohérence dans l'exécution des détails, qui rapprocherait cette œuvre de la civilisation mésopotamienne, nous disent les spécialistes. Oui, effectivement, là, par contre, là, c'est effectivement, ils ont un argument de taille. Le costume d'apparat, semé de dessins trifoliés, donc ces motifs de trèfle, qui ont sans doute une valeur symbolique, mais on ne sait pas la dire. Ce costume n'a pas de comparaison en Inde. Donc vous ne le retrouverez plus jamais, après la civilisation de l'Indus, en Inde. Par contre, c'est assez caractéristique des civilisations de l'ancienne Méditerranée orientale. Donc on fait des rapprochements avec la Mésopotamie et avec ce qui est à l'ouest de la civilisation de l'Indus. Peut-être, peut-être pas. Alors, par exemple, autre chose hein, dont vous avez toujours en tête, ces figures féminines. Bon, le contraste est frappant avec ce buste dit du roi prêtre, encore plus frappant avec cet homme assis que je vous montre, qui est surprenant. Enfin, on croirait un scribe accroupi, mais il faut aussitôt donc renoncer à faire donc un lien quelconque avec l'Égypte. Hein, pourtant, en Égypte, à cette époque, hein, c'est le scribe accroupi du Louvre, donc qui est daté de cette époque. Hein, le scribe accroupi du Louvre, c'est 2500. Donc, on va dire, pour être le plus large possible, la seconde moitié du troisième millénaire avant notre ère. Et il y a des comparaisons. C'est ça qui est surprenant. Le scribe accroupi ou les scribes que l'on a trouvés en Égypte qui datent de cette période sont pour beaucoup très naturalistes. C'est-à-dire avec une poitrine qui tombe, si vous voulez. Hein. Donc il fait pas de sport, là, le personnage. Là. Donc il n'est pas sportif. Donc il a un petit ventre, quand même. Bon, il a des bras qui sont maigres. Enfin, il est fait pour être scribe, quoi. Il a l'anatomie du scribe. Sans qu'on puisse dire, quoi, finalement, si c'est un scribe ou pas. Donc c'est curieux ces rapprochements, si bien qu'on pourrait presque dire qu'il commerçait avec l'Égypte, ça n'a jamais été prouvé, ou que l'œuvre que vous avez ici vient d'Égypte. Non, 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 ça par contre c'est prouvé, l'œuvre est une œuvre arapéenne. Mais ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne sait pas expliquer, c'est l'évolution stylistique. Donc, c'est-à-dire dans un cadre culturel qu'on ne connaît pas, dans la civilisation arapéenne, c'est montré l'évolution stylistique et chronologique des œuvres d'art. Donc il y a des surprises comme ça. Et d'ailleurs, les spécialistes préfèrent faire des comparaisons avec ce qui vient de Mésopotamie plutôt que d'Égypte. Donc par exemple, cette œuvre-là là, que vous avez ici, qui est très célèbre, hein, donc Goudéa, bon, vous en trouvez partout, le Louvre en possède des quantités, des représentations de Goudéa. Goudéa, c'était un prince de Lagash, la cité de Lagash. C'est aussi une cité-état, c'est aussi un territoire. Hein, c'est en Mésopotamie, hein, Lagash. Hein, et il était gouverneur de sa cité ou de sa cité-état, dévot. Vous l'avez ici représenté comme un dévot, c'est-à-dire qu'il dédie cette statue, hein, c'est l'inscription qui est parfaitement lisible, que l'on voit ici sur son vêtement, inscription cunéiforme, il dédie sa statue à son dieu personnel, auquel il témoigne fidélité et dévotion, c'est un dévot, ce que montre la jonction des mains. Hein, c'est un signe de dévotion de Goudéa à l'égard, bien sûr, de son dieu personnel, qui lui a donné le pouvoir. Donc c'est un gouverneur dévot, grand roi bâtisseur, et qui a diffusé partout son image avec des inscriptions qui sont quant à elles lisibles. Bon, je continue sur ces différences stylistiques. Donc on est parti de la Desmer, hein, figure féminine, on est passé au buste du roi prêtre, maintenant un homme assis, et là quelque chose de totalement inattendu, et donc du même coup d'incompréhensible. On croirait, voilà, donc le classicisme grec, c'est-à-dire que la statuaire arapéenne atteint parfois de surprenants canons préclassiques. Canon, c'est-à-dire la volonté chez l'artiste de respecter la proportion du corps humain, une proportion, allez savoir, calculée, hein, on ne va pas dire, on va pas aller jusqu'à là quand même, mais enfin un canon quand même préclassique. Ce dont témoigne ce torse d'homme en grès rouge provenant de Harappa. C'est étonnant, hein, très petit, hein, d'ailleurs, hein, 9,3 cm de haut, très petit. Alors ça s'explique pas, ça, on ne sait pas. Donc, enfin, on voit bien, quoi. Ce qui nous manque, ce sont les textes, des sources écrites qui pourraient en dire un peu plus sur l'état d'esprit de ces gens, ce qu'ils étaient, quelle était leur religion, quelle était leur liberté, donc sur le plan intellectuel, culturel, religieux, bon, etc. Tout ça, on ne sait pas. Et puis, on continue dans ce sens. Donc, la diversité stylistique. Alors là, on passe au bronze. Là, c'est du bronze ou du cuivre, enfin, parce que là, la proportion de cuivre est beaucoup plus importante que l'étain. Donc, enfin, à vous de voir, cuivre, bronze, hein, qu'importe. Donc, et c'est quelques sculptures rares, quand même. Hein, les sculptures en cuivre ou en bronze sont très rares dans la civilisation arapéenne. Quoi qu'il en soit, elles semblent moins hiératiques que les précédentes. Notamment cette jeune danseuse, dans un mouvement naturaliste qui anime son corps, un corps gracile, de jeune femme. Elle est parée de bracelets, remarquez son bras gauche qui en est paré. Son collier, est-ce que ce sont des accessoires de mode à cette époque, au milieu du troisième millénaire avant notre ère, on ne sait pas, bien sûr. Quoi qu'il en soit, il y a une profusion d'ornements, la coiffure est aussi singulière. Et là, il y a des rapprochements peut-être à faire avec des types indiens, des types indiens. Et là, par contre, c'est plus juste de faire des rapprochements avec des types indiens, hein, sur le plan notamment de la coiffure, donc la profusion d'ornements, et les traits du visage aussi, hein, qui en feraient une représentation typiquement indienne. Alors ça, c'est quelques spécialistes qui ont prétendu que les traits du visage de cette jeune danseuse sont ceux, ou rappellent ceux, des peuples dravidiens. Donc ces peuples, cette population qui existe toujours aujourd'hui, noire de peau, hein, donc en Inde, et qui se sont finalement qui ont été refoulés au sud de l'Inde. Et si on arrivait à prouver cela, hein, donc c'est effectivement un visage qui est un visage dravidien, donc ça renforcerait l'idée que ce peuple dravidien pourrait être l'une des composantes ethniques de la vallée de l'Indus, hein, que le peuple arapéen, le peuple qui constitue la civilisation de l'Indus, est pour une part composé de dravidiens. Peut-être, peut-être pas. Bon, c'est une proposition qu'on a faite. Voilà. La nudité du personnage est aussi frappante, surtout le pubis, qui est très marqué, voire carrément disproportionné, et qui pourrait indiquer un phénomène de prostitution sacrée, qui est banal sous l'Antiquité, hein, puisqu'on le retrouve en Grèce, donc de jeunes prêtresses d'Aphrodite, qui étaient aussi des prostituées sacrées. À cela s'ajoute un bestiaire qui est très riche. Alors, ce bestiaire, certes, on l'a déjà un peu vu, sur des seaux, sur des céramiques, mais le bestiaire que je souhaite vous présenter maintenant correspond alors à ce que vous avez sous les yeux, des statuettes, c'est très petit toujours, hein, 7 cm sur 15, des statuettes qui sont alors très diversifiées, dont on ne connaît pas la fonction véritable, qui sont très répandues, mais il y en a beaucoup, on en a trouvé énormément dans ces villes, de Mohenjo-Daro, de Harappa, et donc il y en a partout, dans les musées du monde entier, hein, de ces représentations, qui sont moins fantaisistes que celles des sceaux. Sur les sceaux, on avait des animaux fantastiques, à trois têtes par exemple, ou des unicornes, et c'est moins stylisé que les animaux qu'on a vus sur la poterie. Donc voilà, et c'est très diversifié. Il y a des taureaux, il y a des singes, il y a des crocodiles, il y a des éléphants, il y a des oiseaux de la vallée de l'Indus qui sont représentés de manière toujours réaliste et donc très différente de l'art animalier des cultures de Mésopotamie. Donc là, c'est propre à la civilisation harappéenne, c'est sans comparaison ce goût pour la représentation des animaux réalistes. Voici par exemple, dans d'autres matières, tout à l'heure c'était l'argile, là c'est l'albâtre, la faïence et le bronze, donc un bélier, un écureuil, un buffle. L'écureuil, bon, il est vraiment incroyable, il est tout à fait inattendu, hein. Voilà, l'écureuil en faïence en plus, hein, c'est donc de la céramique, mais donc voilà, de la faïence. Le buffle est en bronze, qui provient de Harappa. Il est au Musée national de New Delhi, et j'ai voulu donner l'importance surtout au bélier, qui me paraît très beau, très évocateur de ce souci naturaliste. Donc c'est des petites statuettes, c'est très simple, mais c'est en même temps très soigné et très naturaliste, très réaliste en fait. Et c'est incomparable, on ne trouve pas ça en Mésopotamie, on ne trouve pas ça ailleurs. Pour l'époque, hein, l'époque c'est toujours la même, hein. Troisième, deuxième millénaire avant notre ère. Voilà encore ici donc alors un char chariot, enfin comme vous voulez, et son conducteur, en provenance de Harappa, 2000 avant notre ère. Alors c'est toujours important de présenter les chars à cette époque, hein, c'est-à-dire 2000 avant notre ère, de dire cette civilisation connaît le char. C'est toujours important parce qu'à la même époque, d'autres civilisations ne connaissent pas le char, à commencer par l'Égypte, à commencer par l'Égypte. Confondez pas le char et la roue, hein. Pas confondre le char et la roue. Donc là, nous parlons du char. Et effectivement, le char est bien attesté dans cette civilisation donc de l'Indus, mais à la même époque, pas en Égypte. Donc il y a des choses surprenantes comme ça. Alors, ce char est vraiment remarquable. Donc voilà. Oui, pour l'Égypte, rassurez-vous, hein, ça va très vite venir, hein, très très vite venir. Mais enfin, à cette époque-là, c'est-à-dire en 2000 avant notre ère, non, il n'y a pas de char en Égypte. Donc ici, il est vu, c'est le même, hein, vu sous un autre angle afin d'apprécier peut-être le harnais, l'harnachement finalement des bœufs qui tirent le char. Ici, on ne sait pas. Est-ce que c'est un ornement ou le chien qui accompagne le cocher, on ne sait pas, et donc d'autres détails aussi qui sont assez intéressants. Alors là aussi, ça c'est pareil, bon, on en a trouvé beaucoup. Alors peut-être pas en bronze c'est toujours plus rare, évidemment, mais en terre cuite, on en a trouvé beaucoup, en voici un autre. Alors là aussi, j'ai pas les proportions, mais enfin, imaginez quelque chose de très très réduit, hein, c'est moins de 10 cm hein, de long, et c'est très curieux d'ailleurs, parce que là le personnage est totalement abstrait, irréaliste, fantastique, enfin, C'est tout à fait étonnant. Voilà, alors bon, donc j'insiste pas. Bon, c'est un peu sommaire, hein, c'est un peu naïf comme art, mais toujours un souci quand même de réalisme, sauf le gaucher qui, lui, est totalement irréaliste. Alors ça, on en a trouvé beaucoup, hein, il y en a partout, en fait, hein, de ce type d'œuvres. Dans les musées du monde entier, plus rare, beaucoup plus rare, ce calice. Attention, quand on dit calice, c'est bien sûr une interprétation, parce que c'est un objet qui est somptueux, c'est une œuvre d'art somptuaire. On pense que l'usage était liturgique, mais non, en fait, on ne sait pas. Hein, donc calice, on va dire vase en or. Et là, le travail d'orfèvre rappelle beaucoup ce que l'on peut trouver au Proche-Orient ou même en Iran, à la même époque, où les orfèvres travaillent au repoussé, c'est-à-dire sur une feuille d'or, ils vont repousser le motif, qui est donc travaillé en creux à l'intérieur de la feuille d'or, et qui apparaîtra en plein ou en relief à l'extérieur de la feuille d'or. Ensuite, ils mettent en forme le vase, le calice, si vous voulez, donc apparaît en relief le motif qui a été travaillé au repoussé à l'intérieur, et le motif en question est travaillé, c'est-à-dire incisé, gravé, pour faire apparaître les détails, comme la crinière, etc. Remarquez aussi l'iconographie qui nous rapproche bien, ou qui fait le lien avec le Proche-Orient ou l'Iran, mais surtout le Proche-Orient. L'iconographie, c'est donc une file de lions, des lions passants, si vous voulez, qui ne se dément jamais, hein, donc au Proche-Orient, si bien que très vite, très tôt, dès l'époque géométrique et l'époque archaïque, les Grecs adopteront ces motifs venus d'Orient. C'est l'art orientalisant qu'on trouve dans la Grèce ancienne. Ça ne se dément jamais. Pensez à Babylone, à la voie processionnelle, hein, certes très tardive par rapport à ce que vous avez ici. La voie processionnelle de Babylone, c'est le 6e siècle avant notre ère. Hein, c'est donc très récent par rapport à ce que vous avez ici. Mais cette voie processionnelle était décorée de lions passants. Une file de lions, si vous voulez, un motif orientalisant et très, très oriental dans le sens de proche oriental, ça vient de Mésopotamie. Voilà, donc, bon, alors, effectivement, tout nous dit qu'il y a des relations avec le Proche-Orient jusqu'au motif décoratif de la corde qui s'entremêle pour créer ce motif que vous avez à la base du calice. Alors, bon, on va parler de la disparition, hein, de cette culture, de cette civilisation de l'Indus. D'abord, on remarquera qu'il y avait des cultures voisines, contemporaines, comme par exemple la culture de Culi. C'est écrit ici. Voilà, ça n'est pas la culture arapéenne, c'est une culture voisine contemporaine qui présente des caractères bien différenciés. Ce que montre ce riton, un riton est un vase à boire en forme de zébu. Donc là, effectivement, les spécialistes remarquent, bon, il y a des points communs, mais surtout des différences entre la culture arapéenne et la culture de Culi. Par contre, il y a d'autres cultures, comme la culture dite de l'Oxus. L'Oxus est un fleuve, le nom ancien de l'Amou Daria. Bon. Donc cette culture dite de l'Oxus, qui est contemporaine, c'est-à-dire contemporaine de la culture de Culi, contemporaine de la culture arapéenne, a des liens évidents avec la culture arapéenne. Ce sont les objets produits qui le disent. Hein. Quand on dit culture de l'Oxus, quand on parle de l'Oxus ou de l'Amou Daria, on parle de la Bactriane. La Bactriane, c'est l'Asie centrale, et vous le savez parce que c'était un peu le thème des cours précédents, l'Asie centrale, c'est capitale comme région, hein. C'est vraiment donc l'endroit où se croisent toutes les influences, tous les échanges se font ici en Asie centrale. Donc quand on parle de la Bactriane pour l'Antiquité, la Sogdiane si vous préférez, la Transoxiane aussi, donc ce sont des régions fondamentales pour les jeux d'influence. Mais enfin, c'est pas ça que je voulais évoquer. Ce que je voulais évoquer, c'était la disparition, ou la destruction, on pourrait dire la destruction de la civilisation de l'Indus, de la culture d'Arapa, qui correspondrait vers 1800 avant notre ère, bon, à des cataclysmes, sans doute des inondations, qui auraient ruiné ces grandes villes arapéennes. Mais voilà, quand on fait cette proposition, qui est sérieuse, hein, c'est fait par des historiens, des archéologues, n'y a-t-il pas quand même derrière cette proposition cette obsession du mythe du déluge, Donc on est obsédé dans nos cultures par ce mythe du déluge qui aurait anéanti comme ça des civilisations, des cultures, et on l'a prétendu pour la civilisation de l'Indus autour de 1800. Alors bon, des cataclysmes sans doute, parce que les archéologues voient bien quand même, dans les strates archéologiques, qu'il y a eu quelque chose vers 1800. Donc cataclysme, pourquoi pas, mais ces événements ont coïncidé avec l'arrivée de cavaliers armés de fer. Et là, il faut imaginer ce que c'est. Donc, des chevaux. On n'a jamais vu de chevaux. Enfin, ces gens n'ont jamais vu de chevaux. Donc, ils voient arriver des cavaliers qui sont armés de fer. Ce sont les Ariens. Et là, vous l'écrivez bien avec un Y, Ariens. Ce sont donc des Indo-Européens, une branche, si vous voulez, donc Indo-Européenne, qui s'installe d'abord en Iran, et qui va très vite passer en Inde, si bien qu'on les appelle aussi les Indo-Iraniens, mais la souche est Indo-Européenne, et ce sont plus précisément les Ariens. Donc qui arrivent à partir de 1800 avant notre ère, ils sont beaucoup plus forts, ces cavaliers armés de fer sont beaucoup plus forts que cette civilisation qui devait finalement être pacifique, d'une part, tolérante, on pourrait très bien l'imaginer, après tout on peut l'imaginer, qui avait le souci de la prospérité, qui avait le souci de maintenir ses villes, avec le souci de l'hygiène on l'a dit, qui avait le souci du commerce lointain, mais qui n'était pas donc belliciste, c'est pas une civilisation belliqueuse, belliciste. Par contre les cavaliers armés de fer, oui, ils le sont. C'est nous, c'est les Indo-Européens, c'est nous, donc on est comme ça. Donc donc ils vont effectivement s'installer à dans cette vallée de l'Indus, et à partir de là, effectivement, dominer, repousser peut-être ces populations qui étaient là, ces populations parmi lesquelles les Dravidiens, qui seront effectivement rejetés au sud de l'Inde, et là ils deviendront la quatrième caste, la plus détestable aux yeux des castes supérieures en Inde. Et le système est toujours viable. Le système des castes est toujours d'actualité en Inde. Mais là, on déborde un petit peu sur le cours de la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, on abordera donc la culture, la culture, la civilisation d'Inde, l'hindouisme, si vous voulez, l'art indien, et c'est bien sûr l'art de ces Ariens qui se sont installés ici, de ces Indo-Européens qui s'installent ici. Donc la suite la semaine prochaine, de ce sujet.